Carrefour.
Quand vous me dites
Carrefour baisse ses prix.
Oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés au rayon charcuterie, traiteur et volaille. Comme la pizza Dolce Regina jambon et champignons Sodebo qui passe de 4,61€ à 3,89€, soit 16% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
400 grammes, prix baissé à compter du 20 mai 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Je vous ai raconté les débuts dans la vie et au cinéma d'Alain Delon, de sa naissance en banlieue parisienne à sa rencontre avec Romy Schneider. Et je débriefe cette histoire avec vous, Marc Brincourt. Vous avez été rédacteur photo à Paris Match, qui vous a amené évidemment à rencontrer Delon combien de fois ?
Oh, ça fait, je dirais que c'est 15 ans de... Je peux pas dire que je suis ami avec Alain Delon, ça serait très prétentieux. Disons que j'ai une complicité professionnelle assez poussée, et ça fait 15 ans qu'on se fréquente par épisode, comme ça.
Mais quand on se fait prendre en photo par Paris Match, on s'ouvre quand même.
Bien sûr.
On livre de son intimité.
Alors, ça dépend aussi des stars, ça dépend aussi des personnalités. Delon, disons qu'il nous donnait des choses. Il y en a qui vont courir après le photographe. Lui, il ne courait pas après le photographe. C'était selon ses humeurs, il donnait. Mais par contre, je dois dire qu'il fait partie de ces légendes, de ces stars qui ont beaucoup donné aux lecteurs de Paris Match, qui ne faisaient très souvent, des reportages photos, pas forcément pour faire de la promotion d'un film. Ils voulaient donner, exactement comme le faisait Brigitte Bardot, comme l'a fait aussi Jean-Paul Belmondo. C'était un cadeau qu'il faisait à ses lecteurs. Mais c'est lui qui choisissait les moments et qui choisissait même les photos qu'il voulait faire.
Un petit point d'actualité, vous l'avez eu au téléphone le week-end dernier.
Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas eu au téléphone. Et le week-end dernier, dimanche, j'étais chez moi et puis le téléphone sonne et son assistante me dit, voilà, Monsieur Delon veut te parler.
Ah, c'est lui qui appelle ?
C'est lui qui appelle. Enfin, qu'il a fait appeler, mais il voulait me parler.
Oui.
Et là, il m'a, pour me souhaiter une bonne année, avec une voix... c'était compliqué, c'était assez dur. J'ai eu du mal même à comprendre certains mots, mais je l'ai reconnu tout de suite. Et c'était une voix très compliquée, très
oui,
dure.
Abîmée.
Très
abîmée. Il semble que le traitement lui abîme beaucoup la voix.
Voilà, et donc il m'a souhaité bonne année. Il m'a dit prends soin de toi, mon Marc, parce qu'il m'appelle mon Marc. Et j'ai été très touché, mais à travers cette voix, avec tout ce qui s'est passé après, j'ai compris pas mal de choses à travers les différents témoignages qu'a fait Anthony. Oui. Et j'ai compris beaucoup de choses de ce qu'a expliqué Anthony.
C'est-à-dire qu'il a sa tête. Mais pas toutes.
Pas toutes. Je crois
quand même, pour vous appeler, c'est qu'il a sa tête.
Oui, mais ça va... Vous voyez, par exemple, je vais juste vous donner un exemple. Le téléphone ressonne une demi-heure après.
Oui.
Et j'entends « Tu m'as appelé ?» Et je dis non, Alain. C'est une connerie. Ça veut dire que je crois qu'il a aussi des... Il oublie la chose qui vient de se faire il y a quelques minutes.
Donc il est entre deux. Quoi.
Il est entre deux. Et je crois que, voilà. Et quand on entend Anthony, il y a beaucoup de choses de vraies. J'ai retrouvé, j'ai compris à travers ces 40 secondes, cette minute que j'ai passé au téléphone avec lui, j'ai compris que, oui, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé et que ça devient de plus en plus compliqué.
Vous me confirmez qu'il n'aime pas qu'on raconte sa vie à sa place ?
Oui, ça c'est sûr, mais oui. Alors là aussi, il y a une anecdote, si je peux me permettre. Un jour, d'abord, j'ai eu un début de relation avec lui très compliqué. La rédaction chef à l'époque m'avait envoyé sur un plateau de prise de vue. Il faisait la couverture avec Bonapol Vort, c'était à la sortie de quand il faisait César dans Astérix et aux Jeux Olympiques. Et il me voit, il était en train de parler avec Catherine Schwab, le reporter. Moi, m'avait envoyé pour voir si tout se passait bien, fallait régler les petits problèmes. Et puis là, j'avais quelque chose à dire à Catherine Schwab, donc je rentre dans la loge et là, il me regarde, il me fait « Qu'est-ce qu'il veut, lui ?» Ah, je fais « Oula, vous inquiétez pas, c'est pas vous que je viens voir. C'est juste un mot à dire à Catherine Schwab. » Ok. Mais j'étais un peu vexé quand même de cet accueil. En plus, pour moi, Delon, c'est moi. Vous savez, ça fait 40 ans que je fais ce métier, mais je suis toujours groupie. Hein. Moi, les Belmondo, Delon, Bardot, oui. J'ai la chance de les connaître. Bon, et puis quelques jours après, il y a le bouclage, et il vient assister au bouclage, c'est-à-dire il vient voir son dossier.
Ah,
au mur.
Oui.
C'est pas du tout pour critiquer quoi que ce soit, mais il aime bien
vérifier.
Il vient regarder. Et là, je le vois, il rentre dans le bureau d'Alain Genestard à l'époque. Et moi, j'étais quand même vexé comme un pou, quoi, par rapport à cette histoire. Donc, je fonce à mon ordinateur et je sors, comme sur une planche contact, toutes les couvertures qu'il a fait pour Paris Match. À l'époque, il y en avait 45. Et je les mets comme ça, 45 sur du papier A3, format ouais. 30-40. Je mets ça dans une chemise et je me mets dans la salle des secrétaires qui étaient les assistantes d'Alain. Donc, la porte est fermée, il est à l'intérieur. Tout d'un coup, la porte s'ouvre et là, je vois qu'il me reconnaît. Il me fait « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je ne veux pas vous agresser, je veux juste vous montrer quelque chose. Et là, j'ouvre la chemise et je dis « Voilà, toute votre vie dans Paris Match. » Et là, il regarde les couvertures. Et là, bon, là, il me l'a fait à la Delon. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait. Mais par contre, je veux la même chose en 2 mètres sur 3, collée, livrée à Douchy.
Elle est quelque part, cette photo,
bien sûr. Et je lui dis « Il n'y a pas de problème, vous l'avez la semaine prochaine. » Je télécharge les fichiers, j'envoie ça au labo, on fait livrer le tirage. Et quand je suis allé à Douchy, elle était dans la salle, ce qu'on appelle la salle des jeux, où il y a les billards, où il y a les flippers et tout ça. Et je l'ai vue, elle est posée contre le mur. Et il a reçu, vous voyez. Et à partir de là, après, il y a une deuxième demande pour une carte de vœux. À un moment donné, il me demandait les cartes de vœux. Il me dit, est-ce que tu peux me voir telle photo, tout ça. Et puis, là, on a commencé à avoir cette complicité. Moi, je ne lui demandais rien. Lui demandait quelquefois des choses comme ça. Et puis, tout s'est installé. Et puis, il y a eu cette confiance qui s'est installée.
Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils s'aiment beaucoup? Oui.
Ouais, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? En tout cas, il est... Bon, il faut arrêter l'histoire. Je parle à la troisième personne. Pour moi, tout ça, c'est parti d'un truc chez les Guignols. Après, c'est devenu une espèce de rouleau compresseur. Bon. Mais, quand il dit « je suis une star », OK, je suis une star. Moi, je ne l'ai jamais entendu dire, me regardant en disant « je suis beau comme un dieu ». Jamais. Il sait ce qu'il représente, il sait ce qu'il est. Il sait surtout ce qu'il est au niveau cinéma, ce qu'il représente. Cette carrière extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose de fantastique.
Même avoir un portrait de soi dans une grande pièce de sa maison, en 4x3, c'est quand même un signe d'immodestie.
Oui, c'est pas... Alors, attention... Il y a deux choses. C'est pas un grand tirage de lui. C'est toutes ses couvertures collées sur un truc et qui est posé comme ça contre un mur.
Oui.
Par contre, il a un peu, je dirais, pas cette obsession de la mort, mais il parle que de ça, quoi. Par exemple, quand je suis allé à Douchy avec Catherine Taboui, qui était l'actrice People et la photographe Vlada Krasilnikova, à un moment donné... Tous les deux, on part, et puis il y a des petits couloirs comme ça, à côté de la salle de jeu. Et là, c'est rempli de photos, de tirages. Je sais pas, il doit avoir 300, 400 tirages encadrés, collés sur les murs. Et là, son truc, il avance comme ça, moi je le suis, et il me fait « mort, 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 mort ». Et là, il se retourne, il me dit « tu vois, je suis le dernier ». C'est... Donc là, il est conscient. Je parle pas de la beauté, mais je crois qu'il sait qu'il a fait une carrière extraordinaire, qu'il a tourné avec les plus grands. Et ça, il en est quand même sacrément fier.
Il y a un grand paradoxe quand il dit « je veux pas quelqu'un raconte », parce qu'il a fait un procès à Bernard Violet au moment où sort ce livre d'où j'ai tiré mon histoire, qu'il a gagné puis perdu en appel. Le grand paradoxe, c'est qu'il a passé sa vie à se mettre en scène. Mais c'était la mode dans les années 60-70.
Complètement.
C'est-à-dire tous les acteurs se mettaient, on les voyait au Plumard en train de prendre leur petit-déj dans Paris Match.
Alors, c'est vrai, mais quand vous dites on les voyait dans leur Plumard en train de prendre leur petit-déjeuner, moi j'appelle ça un cadeau qu'ils faisaient au lecteur. C'est-à-dire que tout le monde pouvait s'identifier. Enfin, tout le monde. C'est-à-dire, non, mais par rapport à plus ou moins. Oui, il a une maison de campagne comme les autres. Oui, il a un jardin. Oui, il aime ses chiens. Et parce qu'il montre ça. Souvent, il n'avait rien à vendre. Mais simplement, voilà. Vous savez, un jour, Jean-Paul Belmondo, je lui ai dit... on était en train de déjeuner avec mon père, avec lui. Et je lui ai dit...
Votre père, Christian Brincourt, autre immense vedette de Paris Match.
C'est gentil. Mais je sais qu'il nous écoute. Et en tout cas, voilà, je lui ai dit, c'est quand même génial, Jean-Paul, tout ce que tu as donné aux gens. Tout ce que tu as fait, tout ça. Mais il m'a dit, mais Marc, c'est normal.
C'est mon métier.
Toutes ces personnes, toutes ces personnes qui, à un moment donné, ont mis, à l'époque, c'était une pièce de 5 francs, par personne en famille, ils ont été voir mes films, c'est grâce à eux. Donc, de temps en temps, oui, je les emmène avec moi, je les mets dans ma valise et je les emmène en vacances, en week-end. En... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la générosité.
Vous avez été, Marc Brinco, rédacteur en chef photo à Paris Match. Vous restez commissaire d'exposition. Vous avez d'ailleurs réalisé une exposition Delon au Cap d'Antibes.
J'en ai fait 3 expositions avec Alain Delon.
Ah, voilà. Et vous êtes toujours en charge des hors-séries, des photos des hors-séries de Paris Match. Alors, sa mère, il parle beaucoup, beaucoup de sa mère. Ça a été manifestement un personnage central de son enfance et de son adolescence, beaucoup plus que son père. Et en même temps, c'est la caricature de la mère castratrice.
Ah oui.
Très intrusive. Donc vous êtes allé à Douchy. Est-ce qu'il y a une trace de maman ?
Il y a une trace. Alors, je n'ai pas vu à Douchy, mais je l'ai vu dans ses bureaux qu'il a à boulevard Haussmann. J'ai vu pas mal de photos de sa mère. Mais vous savez, il y a quelque chose par rapport à sa mère. Et vraiment, c'est bien parce qu'on apprend quand même beaucoup de choses. Mais par exemple, il y a 2 choses. Déjà, ça, c'était... Je me souviens, quand on avait fait le hors-série sur Alain Delon, il m'avait dit... mais ma mère, c'était incroyable, quoi. Et à un moment donné, quand même, quand elle me promenait dans son berceau, elle avait mis un papier. « Attention, cet enfant est beau, ne n'y touchez pas, quoi. » Oui, non, mais c'est quand même incroyable, la mère. Et puis, il y a aussi une chose, et là, je pense que c'est plus une blessure. Quand vous avez évoqué le départ en Indochine,
oui.
Je pense qu'il y a quelque chose qui a beaucoup marqué Alain Delon, c'est que sa mère ne se soit pas opposée à son départ en Indochine.
Ah, vous pensez qu'il aurait voulu qu'elle le retienne ?
Ouais, je pense. Il y a quelque chose qui me dit, parce que c'est... Comme toute mère, mon fils part à la guerre. Oh là là, le père peut être fier en disant voilà, mais la mère, ça va la travailler. Ça. Et je pense que ça a été une sorte de blessure dans le sens où je pense qu'il aurait aimé que sa mère soit vent debout contre ce départ. Ça l'aurait touché. Par contre, c'est vrai. Après, quand je vous dis, j'ai vu des photos. Dans ses bureaux, oui, sa mère est là, elle est assise, et il y a quelque chose de c'est une vraie passion. Une vraie
Parce
passion.
Que s'il ne part pas en Indochine, il reste boucher charcutier.
Exactement.
Il reprend la charcuterie de son beau-père. Vous y croyez vraiment qu'il aurait pu être boucher charcutier ?
Non. En plus, vous l'avez dit, la beauté d'Alain Delon.
Oui, il y a des bouchers qui sont beaux.
Comme Alain Delon, j'en ai jamais vu, hein, franchement. Et je pense qu'à un moment donné, il y aura quelqu'un qui serait rentré dans cette boucherie pour acheter un steak et qui était dans le milieu et qui aurait dit « Mais attends, c'est qui ce mec, quoi ?» Non, je pense pas qu'il aurait, il aurait duré longtemps dans la boucherie.
Alors justement, la beauté, pour un photographe, c'est essentiel. Il y fait très attention, il en est totalement conscient.
Je dirais plus, alors bien sûr, vous avez raison, mais je dirais aussi dans la gestuelle. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand Alain, par exemple, venait à Match, même à l'époque de Roger Théron, alors il y avait une complicité aussi avec Roger Théron. Fallait voir Alain arriver à Match, quoi. Il ne pouvait pas ouvrir une porte normalement. C'était, il ouvre la porte, l'imper sur l'épaule, pof, jeté sur un coussin. Bon, alors, on en est où là ? C'est où là ? La maquette, c'est là ? Il est constamment. Est-ce qu'il est constamment dans le jeu ? Voilà. Il y a un style Alain Delon. C'est comme il disait, 2 litres de café le matin au réveil. Et puis, il peut. Voilà, je dis simplement, il ne peut pas ouvrir une porte normalement.
Mais quand vous faites clic-clac Kodak et que la photo est prise, à l'époque, ce n'était pas du numérique, donc il fallait attendre le tirage.
Exactement.
Il faisait le tri. Alors, disait celle-là oui, celle-là non.
Là, il y a une chose par rapport à ce que vous avez dit quand vous disiez contrôler. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il a toujours eu son photographe.
Ah.
Moi, j'ai connu les 3. C'est-à-dire, il y a eu Michel Ginfray pendant toute une époque. Après, il y a eu Michel Marisi, ça a été le photographe de Delon pendant 30 ans. Ça a été son photographe. Il a toujours eu un photographe attitré. C'est-à-dire que jusqu'à, disons, une certaine époque, c'était les photographes de Match, Benjamin Auger, Walter Caron, les grands photographes de Paris Match.
Oui.
Et à partir d'un certain moment, des années 70, ça a été, il avait son photographe. Donc là, il contrôlait. Là, il regardait les photos, fallait lui présenter les diapos, montrer les tirages, il choisissait, choses comme ça. Comme fait Catherine Deneuve, fait les grands
artistes. Comme font tous les grands artistes.
Mais bien sûr, bien sûr. Mais là, chez Delon, Voilà, il y avait. Alors après, il y a les bons et les moins bons. Voilà, bon, bah, les photographes qui prenaient, ils savaient exactement, surtout Michel Marisi, capter le moment, là où il était le plus beau, le regard, le espèce de contre-jour avec un peu de soleil dans les cheveux, et puis ses yeux, ses fameux yeux bleus qui, bam, qui pétaient dans la photo, dans l'image. Donc évidemment, il était conscient de ça, mais il savait aussi choisir les bons peintres. Vous voyez ce que je veux dire, de vraiment choisir les bons photographes qui allaient le mettre en valeur, comme Gabin. Hein, Gabin, sur un plateau, c'était... il disait au chef apparateur, bon, ils sont bien mes yeux, là. C'était son atout, hein, Gabin. Ces fameux, sa couleur, ses yeux. Tu les as bien, mes yeux, ils sont bien, mes yeux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont tous un petit quelque chose. Peut-être, Jean-Paul.
Belmondo, moins.
Moins, beaucoup moins.
Moins que les autres. On voit, dans, quand on raconte ses débuts au cinéma, qu'en vérité, ça a été son seul passeport. C'est-à-dire qu'il n'a aucun... Il n'a jamais fait...
Pas d'école, pas de
quoi que ce soit. Et puis, il veut devenir acteur parce qu'il sait qu'il est beau à tomber. C'est sa carte maîtresse.
Et puis c'est comme vous l'avez dit, quand le réalisateur lui dit, surtout tu restes toi-même.
Oui. Tu ne joues que toi-même.
Surtout ne joue pas.
Et c'est quand on, a posteriori, on revoit les films, on se dit en vérité, il n'a été toujours que lui-même.
Exactement. Alors, vous voyez un peu le don naturel qu'il avait. Et c'est vrai que c'est un félin, c'est un fauve. Quand il marche, même... quand moi je l'ai connu, bien sûr, je ne l'ai pas connu à l'époque de plein soleil, comme ça, mais quand je le voyais, par exemple, je reviens à Paris Match, il fallait le voir débouler. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. À la maquette, quand il venait voir ses sujets, il y avait pas mal
Il venait même à la maquette.
Bien sûr.
Donc, oui, il sélectionnait les photos.
Parce qu'à l'époque, les pages étaient montées à la maquette. Sur les plaques de Liège, les photos étaient punies. Donc, il venait voir son sujet, monté, avec les titres, avec les textes et tout ça. Et quand moi, le matin, je rentrais à la maquette, je disais, tiens, au fait, les mecs, il y a Delon qui vient ce soir vers 23h et tout. Et là, j'entendais souvent des petits jeunes, hein. Ouais, bon, ah bon, il est encore vivant, lui, ou enfin, le côté un peu je m'en foutisme. Bon, ah bon, Delon, et alors? Ok. Ben, je peux vous dire que quand il arrivait et qu'il poussait la porte de la maquette, qu'il arrivait, qu'il rentrait, il y avait tous les petits jeunes là qui étaient là, tout s'arrêtait. Tout se figeait. Il n'y avait pas un mot. Parce que les gens étaient hypnotisés par le mec, comment il avançait, comment il avançait vers le mur pour voir ses photos.
Les hommes et les femmes, ça c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup retenu dans mon récit, parce qu'il fallait que je fasse un tri, mais il assumait parfaitement d'être séduisant à l'égard des autres.
Il fait partie de ces gens, comme vous avez cité James Dean, Steve McQueen, qui aussi fascinait les femmes, mais aussi les hommes. Ils font partie de ces immenses stars. Il y avait deux publics. Masculin et féminin.
Oui. Ce festival de Cannes 57, alors vous n'y étiez pas.
Non.
Vous n'étiez pas né non plus.
56,
vous aviez un an. Il va donc au festival de Cannes, je crois que c'est la 8e ou 10e édition, je ne me souviens plus. Et il débarque au festival de Cannes avec une voiture de sport qui s'est fait prêter par un type. Et il fait le kéké, quoi.
Ah ouais, puis avec son
personne ne le connaît.
Il avait un costume blanc. Alors je me demande si c'est pas là où il est accompagné quand même. Il n'y a pas été tout seul. Il a fait venir Brialy avec lui.
Alors oui, ça aussi, voilà. j'ai pas retenu Brialy dans le décor, mais Brialy...
Mais il s'est servi de Brialy pour je sais pas si c'est de la timidité, mais il s'est servi de Brialy pour...
Qui n'était pas plus connu que lui.
Mais pas du tout.
Oui.
Et surtout, Brialy était ravi parce qu'il y avait quand même cette beauté qui débarquait à Cannes.
Et Brialy aimait les hommes.
Et ouais, donc il profitait un peu de cet essaim d'abeilles qui tournait autour de cette star.
Mais c'est quand même ça, je ne l'ai pas retenu parce qu'il fallait faire un tri, mais
bien sûr.
Ça m'a marqué parce que finalement, Delon, c'est la caricature du macho, physiquement. Et ça ne le gêne pas d'avoir comme premier grand ami dans le cinéma Jean-Claude Brialy, qui est homosexuel.
Bien sûr. Parce que alors là, il fait la part des choses, il a aucun préjugé. Visconti, hein, je veux dire. Voilà, et lui, ce qu'il voit, c'est l'homme, l'image de cet homme, c'est-à-dire ce qu'il représente, ça, et puis surtout ce qu'il y a à l'intérieur, la gentillesse, l'amitié, tout ça. Très, très important, l'amitié. Parce que vous savez, le nombre de fois où Alain Delon, et encore quand on a fait ce reportage chez lui à Douchy, parmi les 55 tombes de ses chiens,
55
tombes.
Réparties dans le parc ?
Pas réparties dans le parc, dans un carré comme ça. Il y a même des chiens qui sont enterrés par couple. Vous savez qu'il avait deux meutes ?
Oui.
Il avait ses chiens de jour et ses chiens de nuit. Il avait ses chiens de jour, alors là c'était ses bergers allemands, pas bergers allemands, ses bergers belges, enfin il avait toutes sortes de chiens. Et il y avait, à la tombée de la nuit, quelqu'un venait, il lui disait, Monsieur Delon, c'est bon, on peut fermer Et
Alain, on enfermait rentrait, les chiens de jour.
Rentrait, et on enfermait les chiens de jour et on lâchait la meute de nuit. Où là, il y avait 6-7 Doberman qui tournaient toute la nuit dans le parc.
Pour des raisons de sécurité.
Et il n'a jamais été cambriolé. Hein. Vous savez, si des Doberman qui tournent dans le parc, je peux vous dire qu'on est tranquille. Hein.
Ouais.
Mais lui-même, il fallait qu'il fasse attention.
Donc, il a 51 tombes de chiens.
55 tombes, moi, je crois.
Ouais. À Nouchi. Mmh. Et il a des préférés.
Oui, alors, c'est là, quand on est rentré dans la chapelle.
Il a une chapelle, à Nouchi.
Il a une chapelle là où il veut enterrer. Il nous a montré, il y a 6 places, je crois. Alors, on voit déjà les rectangles hein, qui sont dessinés, avec à peu près 15 cm de profondeur. Il n'y a plus qu'à casser la dalle.
Sérieux, tout est prêt?
Ah, bien sûr. Et sa propre tombe est derrière l'autel. Les autres sont sur le côté de la chapelle, et lui, sa tombe est derrière l'autel, le plus près possible du mur de la chapelle.
Vous mais c'est une chapelle
toute petite. Oui, mais complètement chrétienne. Il y a un autel, il y a une croix. Je pense qu'il y a quoi quand même de mettre une trentaine de personnes. Hein. Et derrière ce mur, là où il veut enterrer, derrière le mur, sont enterrés ses 4 chiens favoris.
Ha.
Pas mal, ça, quand même.
Ouais.
Et puis, après, il y a toutes les tombes à côté. Je vous dis 50. Il y a les tombes, les chiens sont enterrés souvent par couple, même.
C'est fou.
Ah oui, c'est fou.
C'est fou, c'est
passion
fou.
Passion de... Et combien de fois il a dit...
Je mourrai avec mes clébards.
Oui, les seules personnes à qui j'ai confiance, c'est les chiens, c'est mes chiens.
Et est-ce que Romy a un statut particulier, Romy Schneider, est-ce qu'elle est à Douchy, quelque part?
Bien sûr qu'elle est à Douchy. Elle est à Douchy sur les photos, elle est à Douchy... Vous savez que quand Alain joue au théâtre, on avait fait une double d'hommage qui est quand même incroyable. Donc il est dans sa loge, il est allongé sur un petit canapé rouge en train de se reposer, et qu'est-ce qu'il y a à côté? Un portrait en photo de Romy. Mais attendez, mieux, il y a la robe de Romy qu'elle portait quand ils ont joué tous les deux dans Dommage qu'elle soit une putain, dirigée par Visconti. Elle avait sa robe de scène. Et ben, quand il jouait au théâtre, il amène cette robe et il l'accroche à un porte-manteau.
Oui, donc elle a vraiment un statut à part. Nathalie Delon n'est pas présente dans sa loge.
Non. Mmh. Enfin, si, il y a quand même pas mal de photos. Mais Romy a quand même un truc particulier. Et un jour, là, quand on se promenait, il a son portefeuille et il a une photo de un Polaroid, je crois, d'une photo de Romy morte.
Pardon.
Eh oui.
Morte.
Je vous dis, il a un rapport avec la mort, la solitude, le vieux loup, la mort, ils sont tous partis, je suis le dernier. Enfin, je dirais presque, il vit entouré de fantômes, quoi. Mais il a connu de telles stars, quand on a tourné, on a connu Melville, Visconti, tous ces immenses acteurs aussi, ces réalisateurs avec qui il a tourné. Et là, il se retrouve, il a 88 ans, et il se retrouve seul, à Douchy,
avec ses fantômes,
avec ses photos.
Ses fantômes, ses souvenirs, et ses enfants.
Et ses enfants, là, c'est une autre histoire.
C'est plus compliqué pour lui, manifestement, d'aimer ses enfants que d'aimer Romy Schneider.
Oui, c'est autre chose. Mais alors, les enfants, si on veut faire des comparaisons, moi, par exemple, je suis très admiratif envers Anthony. Parce qu'Anthony, c'est pour lui que ça a été le plus dur. Parce que quand il a Anouchka et Alain Fabien avec Rosalie, je parle là de l'époque de Long, c'est-à-dire au moment où il les a, je ne dis pas que c'est la descente.
Oui, mais il n'est plus au top.
Il n'est plus au top.
Il ne prend plus tous les films qu'on lui propose.
Voilà.
Il a presque disparu.
Tandis que Anthony, quand il a Anthony, il est au top de sa carrière, au top de sa beauté. Et là, pour Anthony, il faut exister, là.
Ah, il est beau aussi, hein, du coup.
Ah, il est magnifique. Bon. Bah, t'façon,
enfin, ils sont tous beaux. Hein,
moi, j'ai dîné avec lui, Eden Rock. Normalement, c'est Alain Delon qui devait venir à cette exposition.
Ouais.
Mais bon, là, c'était plus possible. J'ai appelé, j'ai laissé un message à Anthony qui, très gentiment, tout de suite, en 10 minutes, m'a dit, avec plaisir, je serai là. Et il a été génial. Et là, quand je l'avais en face de moi, j'ai pas pu m'empêcher. Même une ou deux fois, je le regardais, je me disais, putain, mais c'est dingue. C'est ton père que j'ai devant moi, quoi.
Oui.
C'est incroyable.
Et Alain Fabien, c'est pareil.
Ouais, Oui, bien sûr, il y a quelque chose. Mais Anthony, quoi. Et puis quand on connaît ce qui s'est passé avec Anthony, il a quand même fait un procès à son fils, il a fait... Enfin, c'est pour ça que quand je dis que je suis admiratif par rapport à Anthony, je pense qu'il en a vraiment bavé. Mais Anthony s'est fait comme son père. C'est-à-dire que c'est avec ses douleurs, avec ses, peut-être certaines tristesses, qu'il s'est forgé un caractère, quelque chose de fort. Si Anthony est là et a ce caractère, je dirais, presque comme son père, c'est par rapport à tout ce qu'il a vécu. Et Alain, si aussi, dans tout ce que vous avez raconté au début, sa jeunesse, son enfance, tout comme ça, ces renvois répétitifs, ce rejet de l'autorité,
son placement dans cette famille d'accueil,
oui. Ça forge un mec. Hein. Et puis, il y en a qui s'écroulent, puis il y a les autres qui disent, moi, je vais me battre. Et puis, je vais pas finir comme ça.
Il y a un piano, aujourd'hui ? Parce que j'ai découvert qu'il était pianiste. Elle disait, sa mère dit, que le seul endroit où il se tenait bien, où il se comportait bien, c'était le piano.
J'ai pas vu ça. J'ai pas vu de piano, non. Non, j'ai vu, alors j'ai pas tout vu. Hein. C'est vrai qu'il nous a fait faire un tour. Vous savez, c'est un mec extraordinaire quand même, Alain. Parce que quand on est arrivé avec Catherine Tabouy, donc on passe le portail, on arrive, tout ça. Il était dehors, il nous attendait. Il avait 42 fièvres. Il était avec son écharpe, là, bleu ciel, je me souviens. 42 fièvres. Et je voyais bien, tout de suite, quand je suis descendu de la voiture, j'ai vu qu'il allait pas bien.
Mais il était
et
là.
Je lui dis,
il
je
est pro.
Ouais. Et je lui dis, Alain, on peut revenir. Non, c'est tac, tac, tac. Et là où il m'a vraiment surpris, c'est que quand je suis descendu de la voiture, je rentre dans la cuisine, tout se passe dans la cuisine. Et tout d'un coup, je touche, j'ai plus mon portable. Comme on était arrivé très en avance, on s'est arrêté dans le village d'Adouchi, on avait pris un café, tout ça. Et là, tout d'un coup, je dis, j'ai plus mon portable. Et la panique du portable, on dit toujours, on a tout dedans, c'est ma vie. Enfin, et là, je lui dis, écoutez, commencez.
Je vais chercher mon portable.
Je vais retourner au café ou le téléphone parce que j'ai pas mon portable. Et là, il me dit, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? T'as paumé ton portable? Ah bon, d'accord. Ah bon, vas-y, tout de suite. Je monte dans ma bagnole et tout à coup, je baisse la tête et je vois mon portable qui était dans le vide-poche. Je reviens, tout va bien, je l'ai. Ah bon, super. Mais n'importe quel autre star, rien à foutre de cette histoire d'un journaliste qui paume son portable. Il m'en a parlé pendant toute la journée. Enfin, 3-4 fois, il m'a dit « Putain, mais qu'est-ce que je suis content pour toi quand même, t'as retrouvé... Ah non, parce que quand même, c'est emmerdant, tout ça. Mais, ça se finit bien, cette histoire. » Et puis, quand on a fini la visite, nous a fait visiter le parc et tout ça, je lui dis « Bon, Alain, merci pour tout. On a fait l'interview, les photos, tout ça. On te laisse. » Je vois que... Ah non, on va déjeuner.
Chez lui?
Pas chez lui.
Au resto?
Au resto, à côté, une espèce de petite guinguette où il a ses habitudes. Je l'ai pris avec moi dans la voiture, on y est allé, puis on a déjeuné. Il avait 42 fièvres, quoi. Comme vous avez dit, le pro. Il a dit, c'est OK, c'est là, on y va.
Ces stars des années 60 et 70 se livraient beaucoup. Aujourd'hui, c'est très différent. Il y a encore des acteurs qui font ce travail de se livrer beaucoup pour les magazines, comme Paris Match.
C'est une page qui s'est tournée. Alors déjà, il y a quelque chose de très important. Les Delon, les Belmondo, ils n'avaient pas très peu d'agents. On passait en direct.
Ah.
Eh oui. Là, maintenant, vous avez les agents. Oui. Vous avez les avocats qui deviennent des agents. Dès que vous demandez quelque chose, très souvent, c'est non. Mais ils ne demandent même pas à la star. Hein.
Oui.
Moi, ça m'est arrivé, de rencontrer par hasard à une soirée. C'est quand même dommage qu'on n'a pas pu faire cette photo. Mais de quoi tu parles? De quoi vous parlez? Oui, vous savez, je voulais faire un truc avec un photographe. Pas au courant. Hein. Tandis qu'à l'époque, on traitait directement. Et puis, il y avait quand même quelque chose de fantastique. C'est toutes ces générations de reporters et de photographes de match qui voyageaient en première, qui mangeaient dans les grands restaurants, qui allaient en vacances avec toutes ces stars, qui revenaient de la guerre du Vietnam, qui revenaient de la guerre du Kippour, comme Claude Azoulay, par exemple, qui revenaient. Et puis, ils étaient des compteurs. Et donc, comme ils voyageaient dans les mêmes avions, dans les mêmes classes, qu'ils allaient dans les mêmes restaurants, ils allaient même souvent dans les mêmes boîtes de nuit, dans les mêmes lieux de vacances. Donc, à un moment donné, ils se connaissaient, ils devenaient copains. Et puis, c'était « Ah, alors tu viens d'où, là ?»« j'étais en Israël. »« Ah, raconte-moi !» Parce qu'il y a toujours des anecdotes. Il ne faut pas raconter que les scoops. Il faut raconter aussi...
Mais il n'y a pas un acteur aujourd'hui ou une actrice aujourd'hui qui se livre comme ça? Adjani, peut-être, un peu?
Non.
Non.
Vous rentrez chez Adjani? Vous passez le week-end avec elle en photo? Jamais. Non, 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 c'est toute une époque, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure avec Belmondo.
Delon, Hallyday et compagnie.
Oui, voilà, Hallyday, c'était des gens, ils savaient ce qu'ils donnaient aux gens, à nos lecteurs. C'est pas pour nos beaux yeux, c'est à travers nous, ils faisaient un cadeau à nos lecteurs. Et malheureusement, on est trop dans la promo maintenant.
Merci beaucoup, merci Marc Brincourt d'avoir évoqué Alain Delon avec nous. Je rappelle le titre du livre de Bernard Violet, d'où j'ai tiré mon récit, aujourd'hui en tout cas des 100 premières pages. Le livre s'appelle « Les mystères de Long ». Il est paru il y a une vingtaine d'années chez Flammarion.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.